sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Que se passe-t-il à l'Académie des Beaux-Arts ? Que ce soit en peinture, en musique ou en architecture, novembre et décembre sont placés sous le signe des rencontres entre les jeunes artistes et les académiciens. Découvrez dans l'émission « Sur le pont des arts » de cette fin d'année 2010 les lauréats des prix de l'Académie des Beaux-Arts distribués en novembre et décembre, à savoir les prix d'architecture, de musique et les prix consacrés à l'édition d'art. Réunissant les arts, l'exposition des pensionnaires de la Casa Velázquez à la galerie Espace Évolution de Pierre Cardin à Paris est un rendez-vous annuel où les générations d'artistes se mêlent pour le plus grand plaisir des uns et des autres. L'académicien Pierre Cardin offre chaque année sa galerie d'art aux jeunes pensionnaires en art de la Casa Velázquez le temps d'une exposition parisienne. L'Académie entretient en effet des rapports institutionnels avec la Casa Velázquez, illustre établissement français à l'étranger, qui accueille des chercheurs, mais aussi de jeunes artistes français, distingués et encouragés pour leur excellence. Du 22 au 29 novembre, les œuvres des artistes pensionnaires ont ainsi été présentées à l'espace Évolution Pierre Cardin, rue Saint-Merry à Paris. Issus de disciplines, de formations et d'horizons différents, ces 11 artistes français et espagnols ont travaillé avec une liberté totale et exploré de nouveaux espaces d'expression durant une année. 8 d'entre eux sont des plasticiens qui utilisent les techniques du dessin, de la sculpture, de la gravure ou de la peinture, et 4 s'expriment à travers la photographie, le cinéma et l'art vidéo. Ont été exposées les photographies d'Aurélia Fray, d'Olivier Nord, de Blaise Perrin, les œuvres des plasticiens Amélie Ducommand, Pascal Laborde, Christina Silvan, celles de la peintre Charlotte Guibet, celles des artistes femmes graveurs Muriel Moreau et Anne-Catherine Neza, et enfin, l'œuvre d'un sculpteur nommé, qui bronde son nom d'artiste, Gilles Margaritis. La musique retient son souffle au moment de la proclamation en novembre du lauréat de l'un des concours internationaux de violon et de piano les plus fameux, le concours Long Thibaud. Jacques Thibaud, violoniste virtuose, a fondé en 1943 avec la pianiste Marguerite Long un concours associant leurs deux noms, et cette compétition internationale est consacrée en alternance, une année sur l'autre, au violon et au piano. L'Académie des Beaux-Arts est fière d'offrir chaque année depuis 1993 le premier grand prix de ce concours. Il a été attribué, le 13 novembre dernier, à la violoniste française de 25 ans, Solène Païdassi, que vous entendez interpréter sous ma voix la sonate numéro 6 de Beethoven, opus 30, numéro 1, Adagio molto espressivo. Retrouvez l'intégralité de ce moment musical sur le site internet du concours Long Thibaud. Certes, lire est déjà un plaisir, mais ouvrir un livre d'artiste participe à la joie simple des plaisirs conjugués de l'œil et de l'écriture. Chaque année, l'Académie des Beaux-Arts, conformément à son souhait d'encourager l'édition d'art, décerne un certain nombre de prix à des ouvrages d'art. Parmi ces distinctions, deux grands prix se distinguent tout particulièrement. Le prix du Cercle Monterland Académie des Beaux-Arts récompense l'auteur d'un ouvrage de langue française illustré et consacré à l'art, et le prix Jean Lursa est remis à un peintre ou à un graveur ayant illustré un ouvrage de bibliophilie. Commençons par un voyage inattendu dans les châteaux de la France du XVIe siècle par un artiste de l'époque. Le prix du Cercle Monterland Académie des Beaux-Arts, d'un montant de 10 000 euros, récompense pour la 8e année consécutive l'auteur d'un ouvrage de langue française consacré à l'art. La qualité de l'ouvrage primé fait l'objet d'une appréciation globale à la fois éditoriale, illustrative et rédactionnelle. Le prix est entièrement financé par Jean-Pierre Grivory, président, directeur général de la société Parfum Salvador Dali. Alors, cette année, 2010, le prix du Cercle Monterland Académie des Beaux-Arts a été décerné le 3 novembre à l'ouvrage Jacques Androuet du Cerceau, Les dessins des plus excellents bâtiments de France, de Françoise Boudon et Claude Mignot, aux éditions Le Passage, en coédition d'ailleurs avec les éditions Picard et La Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce bel ouvrage reproduit pour la première fois in extenso le recueil dessiné sur vélin par Jacques Androuet du Cerceau des plus beaux châteaux de France entre 1576 et 1579. Il permet par là même au public d'aujourd'hui de retrouver, en fait, le regard porté par un artiste génial sur l'architecture de son temps. Amis bibliophiles, tendez l'oreille. Le prix Jean Lursa est un prix de bibliophilie créé en 2005 à l'initiative de Madame Simone Lursa à la mémoire de son époux, membre de la section de peinture de l'Académie des Beaux-Arts, qui a pratiqué l'art de la bibliophilie et celui de la tapisserie qui lui a apporté une reconnaissance internationale. Le prix Jean Lursa est doté d'un montant de 7 500 € de récompense et récompense chaque année un peintre ou un graveur ayant illustré un ouvrage original récent de bibliophilie. Il s'agit du seul grand prix de bibliophilie en France. Le prix Jean Lursa récompense ainsi cette année l'ouvrage intitulé « Le soudeur de murmures » de Louis Misson pour les textes et d'Alexandre Holland pour les sérigraphies. Il a été publié par l'atelier Éric Sédoux, édition Écart. Le soudeur de murmures signe la rencontre entre deux exilés dont la France est la terre d'accueil, rassemblant ainsi des textes du poète et romancier chilien Louis Misson et 13 sérigraphies du peintre d'origine hongroise Alexandre Holland. Les éditions Écart se consacrent en fait à la publication d'ouvrages dans lesquels un artiste et un écrivain œuvrent ensemble et dialoguent. À découvrir sans tarder. Prenons notre tapis volant, car on ne recule devant rien à Canal Académie, et survolons la vieille Europe jusqu'à Moscou, sur un tapis dessiné par Jean Lursa, justement. Un tapis armé des couleurs chatoyantes de la palette de l'artiste disparu pour affronter les froids de l'hiver. Ainsi est offert, au regard des moscovites, le temps d'une exposition dans le cadre de l'année France-Russie, un petit morceau de l'univers fantastique, imaginaire des fleurs et des oiseaux de Jean Lursa. L'Académie des Beaux-Arts défend loin les couleurs des arts qu'elle protège. Jean Lursa était membre de l'Académie dans la section peinture et fut une des figures majeures de l'art du XXe siècle. Son épouse, qui nous a quittés récemment, a témoigné de son œuvre à Canal Académie dans une émission Carrefour des Arts. Écoutez cette émission en archive sur notre site internet en tapant simplement le nom de Jean Lursa dans le moteur de recherche. L'exposition organisée par l'Académie des Beaux-Arts et la Fondation Jean Lursa réunit un ensemble de 14 tapisseries, une dizaine de tableaux, des céramiques et des ouvrages de bibliophilie écrits ou illustrés par l'artiste à la galerie Tsereteli, située à l'Académie des Beaux-Arts de Russie cette fois, à Moscou, dans l'un des plus beaux bâtiments néoclassiques de la ville, le palais Dolgorukov, du 19 novembre au 12 décembre. L'ensemble des œuvres exposées offre une vision du travail de l'artiste des années 1920 jusqu'aux années 1960. Elle est accompagnée de la projection du film de Patrick Casal, Le rêve ensoleillé, qui retrace l'itinéraire peu commun de Jean Lursa. Revenons ensemble sur l'un des moments de l'agenda de l'Académie en cette fin de l'année 2010, la proclamation du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts, le 8 décembre 2010, un événement de plus en plus suivi des jeunes architectes et même des étudiants. C'est un temps fort de l'agenda académique et une illustration du soutien de l'Académie aux jeunes générations. Imaginez une catastrophe naturelle, des inondations, la nécessité de loger en urgence des populations coupées des secours, comment les loger, ou les abriter ? Voilà le thème d'étude que le jury de l'Académie des Beaux-Arts a proposé à de jeunes architectes pour le concours du Grand Prix d'architecture de l'Académie 2010. Imaginez donc concevoir un habitat d'occupation transitoire. Il a donc été demandé aux 63 jeunes architectes qui s'étaient portés candidats de travailler à la conception d'un habitat destiné à faire face à des situations de crise extrême telles que des séismes, des tsunamis, des conflits meurtriers. Les jeunes architectes ont apporté des réponses concrètes pour héberger temporairement les populations. Le but était de créer en fait des structures proches d'une greffe urbaine et d'imaginer le tout ou l'ensemble en Europe. Voilà, grosso modo, les consignes. Retrouvons Roger Taillebert et Claude Parent, membres du jury du Grand Prix d'architecture, expliquer le thème du concours de cette année. Nous sommes en compagnie de Claude Parent et de Roger Taillebert de l'Académie des Beaux-Arts et ils font partie du jury, ils sont présidents du jury du Grand Prix d'architecture et cette année, le 8 décembre 2010, vient d'être proclamé le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Claude Parent, cette année, le thème choisi du concours était un habitat d'occupation transitoire. En quoi cela consistait-il ?
Depuis quelques années, on cherche à rentrer dans le concret. Pour les candidats, de trouver des choses qui soient en adéquation avec l'évolution de la société et pas comme ça en l'air, l'hôtel des postes, le musée du roi, etc. Et là, il nous a semblé qu'il était très utile pour les jeunes de réfléchir à un habitat qui pouvait répondre à certaines circonstances très particulières de l'époque. Et cet habitat, on l'a appelé transitoire, en réfléchissant à trouver ce nom intéressant pour ne pas faire habitat d'urgence uniquement. C'est Taillebert qui nous a glissé ce mot au moment des études.
Le mot transitoire est important parce que c'est un lieu évidemment d'hébergement et en fonction du concret, comme vient de le dire Claude, mais encore beaucoup plus important, c'est que le lieu peut être utilisé plusieurs fois par des familles différentes dans les meilleures conditions possibles d'habitabilité. Et en vérité, ces principes de construction étaient non seulement homogènes, mais je dois dire très faciles à réaliser et économiquement réalisables.
C'est un projet qui s'inscrit aussi dans les préoccupations du temps.
C'est dans les préoccupations du temps, mais on voulait éviter le misérabilisme. On voulait éviter le camping d'urgence, parce que quand même, il faut donner des conditions déjà d'habitabilité dignes. Je sais bien que sur l'urgence, on a besoin de tout. On a besoin de tentes, on a besoin de n'importe quoi. Mais nous, en tant que recherche architecturale, on voulait que ce soit quelque chose de très convenable au départ.
Avec tous les équipements qu'une famille peut trouver dans un logement normal. Alors c'est très important parce qu'elle s'est associée avec un dispositif très léger de construction, transportable, facilement posé sur un site et pouvant être conçu de manière d'une habitabilité totale. C'est-à-dire sur le plan social, je crois que c'est une réponse, comme vient de le dire Claude, concrète.
Alors comment les candidats cette année ont répondu ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans les projets que vous avez reçus ? Claude Parent.
Ce qui nous a frappé, c'est qu'ils ont été beaucoup plus nombreux que d'habitude, le double. Et deuxièmement, qu'ils ont répondu très clairement, sans ambiguïté au programme, avec une espèce d'enthousiasme qui se révèle dans la diversité des réponses. Il y avait quelqu'un qui me disait, c'est rigolo, d'une planche à l'autre, on voit que ça fourmille d'idées, on voit que ça fourmille de projets, donc on voit que les jeunes, ils se sont engagés là-dedans, comme des militants. C'est assez exceptionnel parce que ce n'est pas facile de travailler comme un militant quand on est face à un projet d'architecture, surtout quand on est dans les écoles et des trucs comme ça. Et là, on était très contents. Le jury était très content parce qu'il avait l'embarras du choix, ce qui est rare. Ce qui a été rare les 3 dernières années et qu'on travaillait tous au fond sans se connaître, la main dans la main, dans l'enthousiasme du projet.
Projet Taillebert ?
En vérité, ce que vient dire Claude est important. On s'est éloigné du lyrisme permanent qu'il y avait dans cette maison, qui étaient accrochés à des programmes qui n'avaient rien de réaliste, rien de concret. Et qui, bien au contraire, on a regardé le problème d'inondations, de tremblements de terre, qui ont été les facteurs décisifs de la réalisation d'un tel programme et qui ont des demandes considérables pour les êtres humains sur le plan social. Et je crois que tout l'apport de ces élèves a été remarquable dans le domaine d'une réflexion profonde.
Roger Taillebert, vous pensez que tous ces projets sont réalisables ?
Ils sont tous réalisables dans des quantités derrière une inondation, derrière un tremblement de terre. Tous ces appareils qui ont été précisés là sont réalisables de façon industrielle, légère, transportable et facilement constructible. C'est très important. Et économique en plus.
Claude Parent, vous voulez ajouter quelque chose ? On est vraiment dans le concret, on n'est pas dans des villes du futur. Les jeunes vous ont apporté des réponses peut-être même surprenantes.
Ce que nous espérons tous, c'est que, à la lumière du projet de cette année, l'an prochain, on aura encore plus de jeunes parce que les écoles, jusqu'alors, boudaient un peu ce prix de l'architecture, ce grand prix de l'Académie. Et on avait du mal à mobiliser les gens autour. Tandis que là, vu cette réponse, on pense que si on trouve un bon programme pour l'an prochain, et il est temps d'y réfléchir.
Est-ce que vous le connaissez déjà ?
Non. Non. Pas de scoop. On ne le connaît pas. Il faut réfléchir quand même. On vient à peine de donner les réponses. Maintenant, fort de cette expérience, on a enfoncé un coin à la fissure monobloc de ce qu'on appelle les grands prix. Et bien, on va continuer.
Je vous remercie, Roger Taillebert et Claude Parent, pour cette interview, le jour même de la proclamation du Grand Prix d'architecture 2010 à l'Académie des Beaux-Arts, où on peut voir, salle Comtesse de Caen, les projets des 16 finalistes exposés dans cette grande salle, gratuitement, ouverte au public, pour une semaine. Merci à vous. Le prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts 2010 et prix Charles Abella d'un montant de 25 000 euros a été attribué à Marine Miroux, architecte DPLG de l'école Paris-Belleville. Le deuxième prix et prix André Harvison 2010 d'un prix de 10 000 euros a été décerné à Nathael Doran, diplômée de l'école d'État d'architecture et conférant le grade de master l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Et le troisième prix, 2010, le prix Harvison de 5000 euros, a été attribué à Catherine Marêtre, diplômée de l'Institut d'architecture intercommunale Victor Horta en Belgique. Cette année, exceptionnellement, il y a eu une mention spéciale pour un étudiant en raison de la validité et de la qualité des projets. Le jury a décidé de créer une mention spéciale qu'elle a attribuée à Thomas Etès, de nationalité française, étudiant actuellement à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Retrouvons Claude Parent et les quatre lauréats le 8 décembre 2010, au moment de la proclamation.
Le prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts et prix Charles Abella 2010 d'un montant de 25 000 euros, a été attribué à Mademoiselle Marine Miroux. Est-ce que Mademoiselle Miroux peut venir prendre son enveloppe ? Alors maintenant, je vais être un peu indiscret, monter à côté de moi. Je vais faire des choses qui ne se font pas. Elle est née en 1977 à Fontainebleau. Elle est de nationalité française. Elle est architecte DPLG de l'école Paris-Belleville. Et son projet, Better Shaper Helping. Vous avez trois minutes. Pour expliquer votre projet.
Donc, vous présentez mon projet. Moi, j'ai compris le thème du concours, un habitat d'occupation transitoire, comme une proposition d'une solution architecturale pour les victimes d'une catastrophe. Le type de catastrophe naturelle qui affecte le plus grand nombre aujourd'hui, ce sont les inondations. Et avec les changements climatiques, cette situation va encore empirer. Donc pendant une inondation, dans la plupart du cas, les victimes sont évacuées pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et cette évacuation pose de nombreux problèmes, non seulement pour les pouvoirs publics, mais surtout pour les victimes elles-mêmes. En effet, les victimes sont assez réticentes à laisser leurs biens pendant une période aussi longue. Et surtout pendant toute la période que dure le nettoyage, la réparation, la reconstruction de leur habitat, les victimes se retrouvent en fait à vivre à deux endroits à la fois, entre le logement transitoire mis à leur disposition et leur logement endommagé. Et donc le projet s'est attaché à offrir particulièrement une réponse qui soit plus appropriée aux victimes en situation d'inondation. Donc il offre une construction d'urgence qui est mise en place très rapidement sur place et qui peut être ensuite, dans un deuxième temps, transformée pour offrir un habitat, ce que vous voulez dans les derniers panneaux, un habitat transitoire pour un séjour à moyen terme. Donc la construction est acheminée sous forme de conteneurs, qu'est-ce que soit l'endroit, ça peut être largué par avion, bateau, etc., puisqu'on sait que pendant une inondation, les routes sont souvent coupées. Ensuite, elle est montée très très facilement, sans aide d'outils, sans grue, sans aide extérieure, par les victimes elles-mêmes, pour offrir un abri, une structure légère, couverte et flottante, si jamais il y a encore beaucoup d'eau, dans lesquelles les victimes peuvent s'abriter et abriter leurs biens les plus précieux. Ensuite, lorsque l'eau s'est retirée, et si les besoins se font encore sentir, la structure de base se sera isolée, puis équipée, et enfin combinée à d'autres modules pour offrir un logement qui soit adapté aux sinistrés, qui soit adapté au nombre des membres de la famille, qui soit adapté à leurs besoins. Donc les victimes disposent pendant un certain temps d'un espace de vie, ou ce qui peut être aussi un espace de travail s'ils ont besoin, au plus près de leur habitat endommagé. Et ça leur permet de reconstruire progressivement et de reprendre plus rapidement une vie normale. En gros, de désamorcer cet état d'urgence qui caractérise une catastrophe. Et je pense que dans le futur, nous allons devoir nous accommoder de plus en plus de ces situations d'urgence. Les inondations vont devenir de plus en plus fréquentes. Beaucoup de risques, beaucoup de villes essayent en ce moment d'anticiper les risques. Et je pense que le projet Better Cheaper Helping va dans le sens d'une prise en compte de ce risque dans notre quotidien. Merci.
Je dois dire que quand nous avons montré les projets à nos confrères des autres sections, ça a retenu beaucoup l'attention, notamment chez les sculpteurs. Bon, le deuxième prix est prix André Arvidsson 2010, d'un montant de 10 000 euros, a été décerné au projet de Nathanaël Doran, de nationalité française, s'il veut bien venir. Né en 1984 à Boulogne-Billancourt, détenteur du diplôme d'état d'architecte conférant le grade de master de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais.
Merci beaucoup. L'archipel transitoire, c'est un projet qui s'est voulu faire la critique en fait, de la spéculation urbaine dans des grandes villes comme Londres, qui construisent aujourd'hui sur des terrains inondables. C'est aussi une critique des camps de réfugiés, qui sont souvent construits en dehors des villes, et les réfugiés vivent ainsi dans des conditions complètement insalubres. Et une critique de leur position donc dans la ville, mais aussi une critique de leur architecture. Et donc à ces camps de réfugiés et à cette spéculation urbaine, on oppose un autre modèle, celui de l'archipel transitoire, qui est en fait une ville démontable, parcourable, et qui offre un nouveau sol aux réfugiés au cœur de la ville, reconnectant les parties de la ville détruites et déconnectées par la catastrophe.
Après ça vient Catherine Marette, de nationalité belge. Voilà. Diplômée de l'Institut supérieur d'architecture intercommunale Victor Horta, que je connais personnellement et qui est un très bon enseignement, un très bon collège. Elle a obtenu pour son projet Origami le troisième prix et prix Paul Arvidsson 2010 d'un montant de 5000 euros. Voilà, à vous.
Donc en quelques mots aussi, l'idée origami, c'est quoi ? C'est de partir sur un module compact, donc partir d'une feuille de papier et s'imaginer qu'on puisse, à partir d'un pliage, créer un module. Un module compact, donc à partir d'un pliage du type accordéon, on arrive à obtenir quelque chose de compactable, de léger, de modulaire, d'empilable, de superposable, de flexible, Et donc, c'était vraiment travailler cet objet comme étant un objet simple et qui pouvait s'implanter n'importe où dans la ville, dans une friche. Et donc, par le projet que j'ai présenté, c'était de montrer toute la capacité de ce module origami. Voilà.
Je dirais que la simplicité du projet, l'élégance de la proposition, l'humour sous-jacent a fait qu'elle aurait pu être mieux placée. Mais on a été tellement éblouis par l'évidence que, comme toutes les idées simples, on s'est dit « ça peut pas avoir le premier prix, c'est trop simple ». Nous nous excusons d'avoir été choqués par l'évidence de votre projet, parce que vraiment, vraiment à la relecture, il est très sympathique. Voilà. Bon, ben je crois qu'on a terminé par les étudiants. Cette année, une mention spéciale étudiant a été attribuée à Thomas Etes, étudiant né en 87. 1987. Bon, pour son projet gonflable. Il poursuit actuellement ses études à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, qui a une bonne réputation. Un cycle de master 1 sous la direction d'Yves Rougeon. Vous avez eu d'ardents défenseurs.
Il paraît.
Parce que vous étiez jeune, beau, sans doute, on ne le savait pas, mais que vous représentiez dans votre projet une espèce de... qui a dit qu'on ne pouvait pas vous laisser tomber et que vous seriez le représentant parfait des étudiants.
Comme ça a été dit par rapport à la couleur, l'idée c'était de faire des bulles colorées, gonflables, facilement transportables, qui s'agglomèrent les unes aux autres. Et qui forme après une sorte de grand campement où des interactions, les bulles par bulles, et assez ludique, où on puisse ouiller de la couleur, un petit côté enfantin, réconfortant dans des cercles, des bulles chaudes, voilà, dans lesquelles on vivait.
Pour conclure, la section architecture au complet est très contente du cru de cette année, c'est un bon cru. Comme l'a dit le perpétuel, on a augmenté notre nombre de candidats, ce qui est de réponses, ce qui est intéressant. On est rentré dans le concret, ce qui a été une bonne surprise, puisque les réponses ont été à la fois bonnes et nombreuses. Donc l'an prochain, on va continuer sur cette ligne. J'ose pas dire pourquoi moi je suis si euphorique? C'est parce que, je vais le dire quand même, tant pis, je pense que le perpétuel me pardonnera cet aparté. En fait, cette année, on pourrait enterrer le prix de Rome. C'est le jour de l'enterrement du prix de Rome. Bon, c'est pour ça que c'est important pour moi, parce que on nous a toujours soupçonné dans la presse d'être un prix de Rome camouflé. Un prix de Rome sous-jacent, avec des intentions sournoises, mais pas du tout. Cette année, vous voyez les exemples, les réponses, les jeunes qui ont répondu d'une façon nette, sans ambiguïté, sans ce rendu qui cachait les projets, prouvent que nous avons fait un pas vers la modernité, et j'en suis content pour l'ensemble de l'Académie et pour notre petite section en particulier. Merci d'être venu.
Parmi l'actualité des académiciens, signalons du côté des architectes la sortie de plusieurs livres ces derniers mois. Celui de Roger Taillebert, qui a pour titre « Entrée principale » et qui est un livre d'entretien, écrit par Philippe Ungar et paru aux éditions Dilecta. Signalons également un livre de Renzo Piano, « La désobéissance de l'architecte ». Signalons également des textes réunis et présentés par Pascal Blin, Le livre s'intitule « Claude Parent, colère et passion » et c'est aux éditions du Moniteur. Et du côté des architectes, toujours, mais cette fois du côté du roman, signalons la parution du roman de Paul Andreux, « Les eaux dormantes » aux éditions Les Impressions Nouvelles. L'Académie compte dans ses rangs des membres associés étrangers et parmi eux, l'architecte Norman Foster, qui a remporté le concours international de maîtrise d'œuvre pour le projet de réaménagement du vieux port de Marseille qui verra le jour en 2013. Puisque nous sommes au bord de la mer, poursuivons en précisant que Sea Orbiter, créé par l'architecte Jacques Rougerie et bien connu des auditeurs de Canal Académie, a été présenté dans le cadre de l'exposition « Voyage au centre de la mer » à Marseille. Dans l'actualité des arts en dehors de l'Académie, évoquons quelques coups de cœur, la magnifique exposition de France 1500, du Moyen-Âge à la Renaissance au Grand Palais jusqu'au 10 janvier, où justement les visiteurs peuvent admirer les magnifiques peintures de Jean Hay, sans compter l'exposition et pourrait-on dire presque la présence de la belle ferronnière de Léonard de Vinci, sublime portrait de la période dite milanaise du peintre. La Bibliothèque nationale, pour l'occasion, a prêté des dizaines d'ouvrages dont les miniatures vous couperont le souffle. Et puisque ce numéro de Sur le pont des Arts met à l'honneur cette fois l'architecture, je ne peux que vous engager à voir des plans d'architectes extraordinaires comme ceux à l'encre noire sur parchemin d'un projet de plan pour le château de Gaillon ou l'encre en 8 pots sur parchemin de 2 mètres de long qui reproduit le jubé de la cathédrale du Mans ou bien le projet de la façade de la cathédrale de Clermont qui date de 1476. Des œuvres sur parchemin qui sont parvenues jusqu'à nous. À noter également l'exposition du musée d'Orsay qui voyage autour du monde d'ailleurs, la première rétrospective de l'œuvre du peintre du XIXe siècle Jean-Léon Gérôme, membre de l'Académie, qu'on redécouvre actuellement. L'exposition dure jusqu'au 23 janvier à Paris et retrouvez très prochainement Édouard Papet, l'un des commissaires de l'exposition Jean-Léon Gérôme, l'histoire en spectacle, sur notre antenne dans Carrefour des Arts. Passé le mois de janvier, l'exposition sera visible au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid, où il faudra vous rendre pour découvrir ces toiles inspirées de l'Orient et d'une antiquité fantasmée. Du XIXe siècle, passons au XXe siècle, avec l'annonce d'une exposition du musée du Montparnasse, un lieu beaucoup plus intime, consacré à la peinture d'André Masson, disparu en 1987. L'exposition s'intitule « Un nomade à Paris, André Masson ». C'est une exposition originale consacrée au rapport que l'artiste a entretenu avec Paris tout au long de sa vie. Il s'agit d'un sujet inédit qui permet de suivre les traces du peintre à travers la ville au fil de ses errances comme au fil du temps. L'exposition commence le 17 décembre et dure jusqu'au 3 avril. À cette occasion, et grâce à une étonnante documentation, sont réunies pour la première fois plus de 60 œuvres du peintre entre 1921 et 1967. C'était l'essentiel de l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts en cette fin d'année 2010.